VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, heureux d'être à vos côtés pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce mercredi 10 juin 2015. Le fil conducteur ce matin en Côte d'Ivoire, le commandant Abéi rejette toute idée de complot à l'ouverture du procès des militaires pro Gbagbo.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila rencontre des membres de l'opposition et de la majorité en vue d'un éventuel dialogue avant les élections.
Nous soutenons le dialogue parce que nous sommes un mouvement politique et croit que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour pouvoir régler les problèmes de la société.
Conflit en Libye, l'un des deux parlements rivaux se dit mécontent du projet d'accord proposé par l'ONU.
En Syrie, les rebelles se sont emparés d'une base militaire clé du régime de Bachar al-Assad.
Dans la partie magazine, coup de projecteur sur le débat autour d'un éventuel changement de la constitution au Rwanda.
Pour moi, au nom de la volonté populaire, notre président doit continuer à nous diriger. Mais les dirigeants du Congo ou du Burundi doivent démissionner parce que leur peuple ne les veut pas.
Au programme également, la Minute Éco et le billet sportif.
En Côte d'Ivoire, comparution hier devant le tribunal militaire d'Abidjan du commandant Jean-Noël Abéi, un pilier de l'appareil sécuritaire de l'ancien régime. Poursuivi pour complot et désertion à l'étranger, le commandant Abéi avait pris la fuite après la crise post-électorale de 2010-2011. Il avait été arrêté en février 2013 au Ghana, puis extradé en Côte d'Ivoire. D'après l'AFP, le commandant Abéi s'est défendu en disant qu'il avait déserté uniquement pour sauver sa vie et non pour préparer un complot. Ma tête était mise à prix, on voulait m'assassiner, a-t-il ajouté. Au total, 7 officiers fidèles à l'ancien président Laurent Gbagbo doivent être jugés par le tribunal militaire. Selon le parquet, ils risquent entre 3 ans et la prison à vie. Les auditions doivent se poursuivre aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila poursuit ses consultations en vue de l'organisation d'un dialogue avant les élections. Pour cette deuxième semaine, des partis et regroupements de l'opposition ainsi que de la majorité ont échangé avec le chef de l'État congolais. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Nous soutenons le dialogue parce que nous sommes un mouvement politique et croit que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour pouvoir régler les problèmes de la société.
Ancien secrétaire général du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, Thomas Luaka, aujourd'hui à la tête de son propre parti dénommé MLC Libéral, s'est en ces termes exprimé au sortir de son entretien avec Joseph Kabila. Le président a également reçu sa famille politique. Selon Obem Inaku, secrétaire général de la MP, la majorité présidentielle est prête à dialoguer en toutes circonstances.
Nous, de la majorité, nous sommes prêts à dialoguer en tout temps, dans le respect des principes mis en place par le président de la République.
Dernier à être reçu ce mardi 9 juin 2015, le député national Justin Bitakwira, élu du Sud Kivu, ancien bras droit de Vital Kamerhe, a lui appelé le chef de l'État à résoudre la problématique de l'insécurité dans l'est de la RDC et à aider à la désignation du porte-parole de l'opposition. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Nigeria, l'adolescente de 15 ans qui risquait la peine de mort car accusée d'avoir empoisonné son mari de 20 ans, son aîné, a été acquittée hier par un tribunal du pays. Wasila Tasiou était jugée pour homicide volontaire, accusée donc d'avoir volontairement mélangé de la mort au rat dans un repas destiné à son mari. Selon l'AFP, les défenseurs des droits de l'homme qui ont salué l'acquittement de l'adolescente ont soulevé à cette occasion la question du mariage des enfants, très répandu dans le nord du Nigeria, majoritairement musulmans.
Le gouvernement tunisien a annoncé vouloir faire appel d'une décision de la justice annulant le décret de confiscation des biens et de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali. Des précisions avec Eddie Sango.
Le ministre tunisien des domaines de l'État, Aten El Ouichi, a confirmé sur une radio locale la décision énoncée la veille par les tribunaux. Il a, au nom du gouvernement, qualifié la décision de dangereuse et choquante et a dit espérer que le tribunal prendra la décision adéquate au niveau de l'appel. 114 membres et proches de la famille de M. Ben Ali et de sa femme Leila Trabesli avaient vu leurs biens saisis dans les mois qui ont suivi la révolution de janvier 2011. Dans les lots, des centaines d'entreprises, des biens immobiliers, des voitures ou encore des bijoux appartenant au Ben Ali et au Trabesli qui avaient placé l'économie du pays sous coupe réglée. Une partie des biens a été revendue, notamment lors d'une exposition fin 2012. En septembre 2012, la Tunisie avait indiqué avoir confisqué 13 milliards de biens ayant appartenu à la famille de l'ex-président, mais aussi à son parti, le Rassemblement constitutionnel démocratique RCD, dissous depuis. Selon le tribunal administratif de Tunis, le décret confisquant ces biens n'est pas valable car il n'a jamais été validé ni par l'Assemblée nationale constituante élue en octobre 2011, ni par l'Assemblée des représentants du peuple élue fin 2014.
L'un des deux parlements libyens rivaux qui négocient au Maroc s'est dit mécontent hier du projet d'accord proposé par l'ONU, rapporte l'AFP. L'équipe de négociateurs du parlement de Tobrouk a été rappelée pour consultation à propos du texte. Un peu plus tôt, l'émissaire de l'ONU, Bernardino León, avait cependant déclaré que la quatrième mouture de projet d'accord, soumise lundi soir, avait été accueillie de manière positive par les représentants des deux parlements. Une rencontre est prévue aujourd'hui à Berlin avec des dirigeants internationaux. Profitant du chaos en Libye, le groupe État islamique a annoncé hier avoir pris la ville de Sirte, dont il contrôlait déjà l'aéroport depuis fin mai, ainsi qu'une centrale thermique voisine.
L'Érythrée a rejeté un rapport des Nations Unies l'accusant de violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits de l'homme. Dans un communiqué publié hier, le ministère érythréen des Affaires étrangères décrit le document comme étant totalement infondé et dépourvu de tout mérite. Jean-Roger Bion.
Pour le gouvernement érythréen, ces accusations s'inscrivent dans le cadre d'une campagne politiquement motivée qui vise à saper les progrès politiques, économiques et sociaux de l'Érythrée, y compris dans le domaine des droits de l'homme. Le rapport de l'ONU épingle le gouvernement d'Asmara sur des questions comme la liberté d'expression, d'opinion, de réunion et de religion. Il note que des Érythréens accusés de crimes n'ont pas droit à des procès équitables et sont soumis à la détention arbitraire, à l'isolement et au travail forcé. Les Nations Unies s'inquiètent des entraves posées à ceux qui désirent quitter le pays et accuse nommément le président Isaias Afwerki, son parti, l'armée érythréenne et les ministères de l'information, de la justice et de la défense. La commission qui a rédigé le rapport dit également avoir été empêchée de se rendre en Érythrée. Les autorités sont restées sourdes à ces relances pour obtenir des informations lors d'un processus qui a impliqué 550 entretiens et 160 observations écrites. En dehors de l'ONU, des organisations telles que Human Rights Watch ont longtemps accusé le gouvernement érythréen d'opprimer son propre peuple.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les rebelles ont capturé hier une importante base militaire dans le sud du pays. Une défaite de plus pour le régime de Bachar al-Assad, engagé depuis 4 ans dans une guerre qui a fait plus de 230 000 morts. En Irak, l'armée et des milices chiites progressaient dans la ville de Baïji, située sur l'axe entre Bagdad et Mossoul, la grande cité du nord, dont la reconquête semble impossible à ce jour, un an après sa prise par des djihadistes du groupe État islamique.
Le président Barack Obama a défendu hier sa réforme du système de santé, dit Obama, assurant qu'elle faisait désormais partie du paysage aux États-Unis au moment où la Cour suprême s'apprête à rendre une décision susceptible de mettre à plat ce projet phare de sa présidence. M. Obama s'adressait à une association médicale catholique à Washington, rapporte l'AFP. Les États-Unis ne sont pas un endroit où on se contente de tourner le dos aux personnes malades, fatiguées, aux pauvres et aux laissés pour compte, a-t-il déclaré. 16 millions de personnes ont bénéficié de la réforme depuis son adoption en 2010.
Et toujours aux États-Unis, l'ancien président de la Chambre des représentants, Dennis Hastert, a plaidé non coupable d'avoir menti à la Sûreté fédérale dans une affaire d'abus sexuels et de versement d'argent pour réduire la victime au silence. Chéruba Dorsil.
Dans un tribunal fédéral de Chicago, dans l'Illinois, l'ancien dirigeant républicain de la Chambre basse a de ce fait allégué qu'il n'a pas violé les règles bancaires américaines ni menti aux agents du FBI. Dennis Hastert, qui est connu dans les cercles politiques de Washington pour une carrière exempte de scandales, est accusé d'avoir retiré de son compte jusqu'à 1 700 000 dollars entre 2010 et 2014 pour s'acheter le silence d'une personne qu'il peut avoir agressée sexuellement alors qu'il était entraîneur de lutte dans un lycée. Puis, face au questionnement des autorités, il aurait menti. Bien qu'il n'y ait rien d'illégal au retrait de fortes sommes d'argent d'un compte privé, les enquêteurs fédéraux interrogent d'habitude le propriétaire du compte pour éviter tout risque de blanchiment d'argent par le crime organisé. Hastert a eu le plus long mandat en tant que président de la Chambre basse et, à ce titre, le deuxième personnage désigné pour succéder au président américain en cas de décès, derrière le vice-président. Après 8 ans au perchoir, il est devenu lobbyiste à Washington. Hier, la justice lui a ordonné de remettre son passeport et toute arme qu'il pourrait avoir dans sa maison.
Enfin, l'ex-vice-président de la FIFA, Jack Warner, l'un des principaux accusés dans le scandale de corruption visant l'instance internationale du football, a déclaré hier que les États-Unis ne lui garantiraient pas un procès équitable. Pour le Trinidadien, les États-Unis ne sont pas la juridiction compétente pour juger les dirigeants de la FIFA de manière équitable, car le pays a été lésé dans l'attribution de la Coupe du Monde 2022, écrit-il dans un éditorial que cite l'AFP.
Les grands titres de l'actualité économique en Afrique et ailleurs dans le monde, c'est la Minute Éco avec ce matin Claire Morin-Gibourg.
Signature aujourd'hui au Caire d'un traité de libre-échange africain. 26 pays entre l'Égypte et l'Afrique du Sud feront partie d'un marché unique qui va favoriser les échanges. Ils appartiennent actuellement à 3 grands blocs régionaux couvrant quasiment toute la moitié orientale du continent. Une décision majeure car les pays africains souffrent de formalités et autres barrières douanières qui sont le plus souvent beaucoup plus importants que dans le reste du monde. Le Burkina Faso veut arrêter la production de coton OGM d'ici 3 ans. Suite à la grogne des producteurs, l'interprofession du coton a donc décidé de mettre un terme à l'utilisation des semences de coton génétiquement modifiées de l'entreprise américaine Monsanto. Selon le magazine Jeune Afrique, les rendements, moins élevés que ce qui était annoncé dans le contrat, et la qualité de la fibre de coton, qui n'est pas au rendez-vous, sont la cause de ce revirement. Pour mieux lutter contre le réchauffement climatique, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français, a incité les pays du G7 à mettre en place un plan d'investissement dans les énergies renouvelables en Afrique. Dans une interview au journal français Le Monde, il a également appelé à une généralisation des systèmes d'alerte face aux catastrophes qui touchent les pays les plus menacés par ces changements climatiques.
Merci Claire. Il est l'heure de notre page sportive avec Nicolas Pinou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Match amical Congo-Kinshasa-Cameroun, match nul entre les deux équipes.
À Mons, en Belgique, c'est Jordan Botaka qui avait ouvert le score pour les Léopards. Mais les Lions indomptables reviennent au score avant la mi-temps grâce à Bedimo. Score final 1-1. On rappelle que la République démocratique du Congo jouera son premier match des éliminatoires de la CAN 2017. Ce sera contre Madagascar au stade Tata Raphaël. Les Lions indomptables affronteront dimanche à Yaoundé la Mauritanie. Et puis Jacques, la Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est en Nouvelle-Zélande.
Oui, les huitièmes de finale ont débuté. Les jeunes Maliens et Ghanéens s'affrontent en ce moment même pour un billet pour les quarts de finale. Le score à la mi-temps était de 1-0 pour le Mali. Tout à l'heure à 7h30 TU, le Sénégal contre l'Ukraine. À noter également les deux autres rencontres, Serbie-Hongrie, États-Unis-Colombie. Autre Coupe du Monde, Nicolas, celle des femmes au Canada.
Oui, hier la France a battu l'Angleterre 1-0. Aujourd'hui le choc, ce mercredi, entre les Allemandes et les Norvégiennes. On va voir si les Ivoiriennes se sont remises de la correction 10-0 infligée lors du premier match. La Côte d'Ivoire affronte la Thaïlande. On n'oublie pas Chine, Pays-Bas et Canada, Nouvelle-Zélande.
L'entraîneur du FC Barcelone prolonge l'aventure en Catalogne.
3 jours après la victoire du club catalan en Ligue des Champions, le Barça a donc prolongé le contrat de son entraîneur Luis Enrique jusqu'en 2017. C'est ce qu'a annoncé son président Josep Maria Bartomeu. On rappelle le palmarès du Barça cette année, triple victoire en Ligue des Champions, en Liga et en Coupe du Roi. Enfin Jacques, le basket nord-américain, la finale NBA. Le troisième match, c'était cette nuit.
Oui, les Cavaliers ont tenu le coup. LeBron James a récolté 40 points et les Cavaliers de Cleveland ont défait les Warriors de Golden State 96-91 cette nuit, prenant ainsi une avance de 2-1 en finale de la NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide au micro. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. C'est l'heure maintenant d'entamer la tranche magazine. La Cour suprême du Cameroun a confirmé hier la condamnation à 25 ans de prison de l'avocate française d'origine camerounaise, Lydienne Yeneyoum. Le 26 septembre 2014, le tribunal criminel spécial chargé de la répression de la grande corruption l'avait reconnue coupable du détournement de plus de 1000 milliards de francs CFA, soit 1,5 million d'euros. Le cas de Maître Yeneyoum avait été porté à l'attention du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Timothée de Nangmaï, adjointe dans l'État américain de Pennsylvanie, c'est Angie Roland Adjovi, membre africain du groupe.
Le groupe de travail a reçu une plainte relative à la procédure. Et c'est sur cette base que le groupe de travail a déterminé que les délais de procédure, les délais de la détention préventive n'ont pas été respectés. Et que dans le cadre de la procédure, du procès sur le fond de l'affaire, le droit à être jugé de façon équitable n'a pas non plus été respecté. Et c'est sur cette base que le groupe de travail a considéré que sa détention était arbitraire. Sur le fond, le groupe de travail n'était pas intéressé par les allégations de corruption contre elle. Mais ce que le Cameroun a l'obligation de faire, parce que le groupe a constaté une violation, c'est de réparer, soit en réduisant la peine, soit en recommençant la procédure s'ils estiment que ça permettrait de résoudre les problèmes, soit en compensant financièrement le préjudice qu'elle a subi.
Alors, vous avez dit que le groupe de travail ne s'intéresse pas au fond de cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Le groupe de travail a un mandat clair. Il s'intéresse à la détention arbitraire. Donc, le groupe de travail n'est pas un organe d'appel contre une procédure pénale sur le plan national. Le groupe de travail va s'intéresser à comment la procédure a été conduite sur le plan national pour s'assurer que toutes les fois que quelqu'un a passé le temps dans une prison, il y avait une loi qui permettait cette détention-là. Maintenant, il y a des cas exceptionnels où le groupe de travail s'intéresse aussi au fond de l'affaire. C'est quand le groupe de travail est saisi d'informations démontrant de façon objective et sans contestation qu'il y a eu fabrication d'allégations. Vous connaissez très bien le cas de Atangana. Voilà un cas où le groupe de travail a dit que même la procédure engagée contre lui était erronée, était abusive.
Alors,
Dans ces cas-là, le groupe de travail demande en général la libération immédiate. Dans les autres cas, si la violation n'a pas été telle que la sanction pénale n'est plus justifiée, le groupe de travail demande au gouvernement de réparer, mais laisse la latitude au gouvernement pour choisir la réparation.
Vous parliez tantôt de Michel Thierry Atangana, ce Français d'origine camerounaise, détenu pendant 17 ans au Cameroun avant d'être libéré. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avait demandé au Cameroun de réparer les préjudices que M. Atangana a subis. Où en est-on?
Heureusement, le gouvernement n'a toujours pas réparé le préjudice qu'il a subi et même sa libération ne s'est pas faite comme le groupe de travail l'a recommandé puisque le gouvernement prétend lui avoir pardonné ses fautes. Donc, Michel Thierry Atangana continue à se battre pour la réparation et pour le respect des recommandations du groupe de travail. Et il a le plein soutien du groupe de travail puisqu'il rencontre régulièrement au groupe de travail et que le groupe de travail a aussi mentionné la non-conformité avec ses recommandations dans son rapport annuel.
C'est Angie Roland Adjovi, membre du groupe de travail des Nations Unies contre la détention arbitraire, jointe à Glenside en Pennsylvanie.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
L'ONU se dit préoccupée par les actions de plus en plus violentes et menaçantes d'une milice pro-gouvernementale au Burundi. Une milice dénommée Imbonerakure, accusée d'exécutions sommaires, d'enlèvements et de tortures, notamment pour le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein. Ces violations présumées pourraient faire basculer une situation déjà extrêmement tendue au Burundi. Pour une analyse, Nicolas Pineau a joint le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention des génocides, Adama Dieng.
Effectivement, la situation est certes préoccupante. J'y ai séjourné à la fin du mois de mai. J'ai rencontré les autorités, j'ai rencontré l'opposition, la société civile, et j'étais d'autant plus préoccupé que les Imbonerakure, qui sont considérés comme la jeunesse armée du parti au pouvoir, sont devenus véritablement une force sur le terrain. Et de ce point de vue, je ne peux que renouveler l'appel que j'avais fait il y a un an, que j'ai réitéré lors de mon dernier séjour, pour qu'une enquête soit menée par les autorités et que surtout un désarmement effectif soit effectué. Non seulement, bien entendu, du camp des Imbonerakure, mais également d'autres acteurs qui détiennent aussi des armes qui sont cachées.
Qu'est-ce qui, malheureusement, selon vous, pourrait faire dégénérer la situation?
Ma grande crainte, c'est que demain, cette crise qui est aujourd'hui à caractère essentiellement politique puisse déboucher sur une crise ethnique. Et connaissant l'histoire faite de violence et de tuerie au Burundi, j'ai bien peur que si on n'arrive pas à arrêter cette crise, le pire pourrait arriver. Si l'on s'entête à rester sur des positions radicales, ce qui risque d'arriver tout simplement, c'est que les craintes d'attaque contre les populations fondées sur l'appartenance politique ou l'appartenance ethnique, eh bien, j'ai bien peur que ces craintes vont se révéler dans la pratique avec un accroissement de la violence. Il est essentiel aujourd'hui que les autorités du Burundi garantissent le respect des droits fondamentaux et l'état de droit, en particulier durant cette période de forte tension, et ceci en respectant les obligations internationales du Burundi en matière de droits de l'homme.
La crise actuelle au Burundi, ça vous rappelle de mauvais souvenirs?
Hélas, oui. Ça me rappelle autant les souvenirs du Rwanda et les souvenirs tout récents de la Centrafrique, où nous avons été les témoins d'un quasi-génocide, le nettoyage ethnique qu'a conclu la commission d'enquête. Et c'est pourquoi j'insiste encore une fois, et je l'ai fait d'ailleurs devant le Conseil de sécurité la semaine dernière, à poursuivre ce dialogue.
C'était Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention des génocides.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine à la question du troisième mandat. S'éterniser au pouvoir en changeant la Constitution est-il un mal africain? Le 21e siècle est-il celui de l'alternance politique sur le continent? Et les Occidentaux doivent-ils imposer leurs pratiques démocratiques aux pays africains? Nous vous invitons à en débattre sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission 19h temps universel sur VOA Afrique.
Au Rwanda, une éventuelle modification de la Constitution pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017 a fait couler beaucoup d'encre. Mais contrairement aux autres pays africains, au Rwanda, très peu de voix s'élèvent contre cette éventualité. Les partisans du pouvoir qui saluent le succès économique du pays ont même organisé une pétition pour exiger une révision constitutionnelle. À Kigali, la capitale, le reportage de Bagassé Koura.
Ici, on parle de près de 4 millions de signatures recueillies en quelques semaines. Le but, signifier clairement aux parlementaires qu'il faut modifier la Constitution afin de permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Ce dernier, au pouvoir depuis plus de 20 ans, achève en 2017 son second mandat à la tête du pays. Wilson Ali Kayitare est un cadre de banque à Kigali. Pour ce jeune homme élancé en costume cravate, les raisons pour maintenir Kagame au pouvoir ne manquent pas.
Nous venons de très loin. Nous n'avions rien, pas de route, pas d'hôpitaux. Et même en 1994, il n'y avait pas de développement. Notre président nous a sortis de cette situation.
À l'en croire, tout commence par des discussions sur les réseaux sociaux. Convaincu des succès économiques du président Paul Kagame, lui et quelques amis décident de lancer fin mars une pétition demandant aux citoyens d'écrire pour demander aux parlementaires de modifier la constitution pour permettre à Kagame de se présenter en 2017.
On leur a dit, faites comme ça, écrivez des messages personnels au Parlement et celui-ci va faire comme vous voulez.
Il affirme que son groupe a recueilli plus de 250 000 signatures en 3 semaines. Selon les partisans du pouvoir, à ce jour, le Parlement a reçu près de 4 millions de signatures. Et pour Wilson Kayitare, ce processus qui est enclenché au Rwanda n'a rien à voir avec les modifications constitutionnelles tant décriées dans les autres pays africains.
D'abord, permettez-moi de faire la différence entre ces États et ce qui se passe dans notre pays. Les citoyens de ces pays ne veulent pas de leurs leaders parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ces gens se plaignent d'être en retard, de ne pas connaître de progrès. Pour moi, au nom de la volonté populaire, notre président doit continuer à nous diriger. Mais les dirigeants du Congo ou du Burundi doivent démissionner parce que leur peuple ne les veut pas.
Et si malgré tout, Paul Kagame, qui ne s'est pas encore prononcé sur la question, décide de renoncer au pouvoir en 2017.
Cela ne me plairait pas, mais je ne pense pas que ça puisse arriver, parce que nous sommes comme une famille au Rwanda. Et si la famille demande un service à l'un de ses membres, celui-ci ne peut pas refuser.
À l'allure où vont les choses, tout laisse croire qu'on s'achemine sûrement vers un changement constitutionnel au Rwanda. Bagassi Koura, Kigali pour VOA Afrique.
Oui, vous l'aurez imaginé, tout le monde n'est cependant pas pour la modification de la Constitution au Rwanda. Dans notre prochaine édition, vous entendrez Maître Bernard Taganda, président du Parti social Imbirakuri. Pour lui, cette pétition est une simple manœuvre du parti au pouvoir.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
L'ONU Femmes vient de publier son rapport sur la situation des femmes dans le monde, lancé à Dakar au Sénégal. Le rapport évoque l'élaboration de politiques en vue de transformer les économies et de concrétiser l'égalité hommes-femmes. Pour plus de précisions, Camille Gros-Didier s'est entretenue avec la représentante régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre d'ONU Femmes, docteur Joséphine Odira.
Le rapport soulève plusieurs défis sur le lieu de travail, par exemple. L'écart salarial, où les femmes touchent beaucoup moins que les hommes, même pour le travail égal. Les femmes, pour la plupart, gagnent 24% de moins que les hommes dans le monde entier. Si on prend quelques exemples en Afrique de l'Ouest, le Cameroun, l'écart s'élève à 39%, alors qu'au Mali, c'est à 63%. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a une discrimination contre les femmes. Il y a d'autres obstacles qui se posent. Selon les chiffres qu'on dispose, 75% des femmes se trouvent dans le secteur informel. Et là, c'est un travail qui n'a pas de protection sociale, où les rémunérations sont très faibles, où il y a même l'insécurité au niveau de la personne même, parce qu'il y a du harcèlement sexuel et d'autres dans le travail informel. Il y a d'autres défis qui se posent au niveau du travail, par exemple du travail domestique. Et là, ONU Femmes plaide pour les emplois décents.
Pour mieux protéger les femmes dans le travail, le rapport d'ONU Femmes préconise un mélange de mesures économiques et sociales grâce auxquelles les gouvernements pourraient justement promouvoir et protéger leurs droits.
Tout à fait d'accord. Si on prend l'exemple du travail domestique, là, il y a la convention sur le travail domestique que certains pays ont signé, ont adopté, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ratifié la convention. Par contre, la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme est presque à 90% signée et ratifiée. Mais c'est la mise en œuvre de cela. Mais qu'est-ce que cela donnerait aux femmes comme bénéfice? D'abord, si certains travaux sont reconnus comme importants, si ce travail devient visible, les femmes seraient mieux rémunérées, les femmes auraient la protection sociale, ou bien les femmes pourraient aussi bénéficier des allocations ou bien des bourses familiales. Ça, c'est un travail de gouvernement. C'est le gouvernement qui doit mettre en place des politiques sociales appropriées et adaptées aussi aux besoins des femmes.
Docteur Joséphine Odira, représentante régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre d'ONU Femmes, était en ligne depuis Dakar. Voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui, en ce mercredi 10 juin. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. À la technique, Charles Hall. Au micro, Jacques Aristide. Depuis Washington, nous vous souhaitons une excellente journée et vous donnons rendez-vous demain matin sur VOA Afrique. Take care.
Sur VOA Afrique.